Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Des grandes expéditions à l'art de l'immobilité, comment observer la planète ? Comment s'extraire du tumulte et fuir la dégradation du monde, tout en sensibilisant à la beauté et à la nature, et ce, en toute humilité. Quels postes et quelles techniques d'observation peuvent nous réconcilier avec ce vivant, dont l'ennemi premier n'est autre que l'homme et nos sociétés modernes ? Pour ne plus être myope face au monde qui nous entoure, pour redevenir humble face à l'ordre de la nature, loin du désordre de nos vies, nos invités ont appris de leur voyage, de leurs rencontres et adapté leur existence. Deux hommes, deux générations, une vie à parcourir la planète, sur Terre et sur les océans, à pousser les limites géographiques et spirituelles, deux êtres qui, aujourd'hui, ont choisi de se poser, d'être à l'affût dans ce monde qu'il faut apprendre à regarder. Aujourd'hui, la voie est libre avec Jean-Louis Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, aventurier, explorateur et votre dernier livre, Aux arbres citoyens, édité chez Paulsen, est une ode non seulement aux arbres, mais aussi aux cabanes, refuges et points d'observation du monde loin du tumulte. À nos côtés, Sylvain Tesson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, écrivain, auteur de La Panthère des neiges, paru chez Gallimard, un animal qui vous a entraîné sur les plateaux du Tibet. Et puis, vous préfacez un très joli livre intitulé « Des cabanes dans les arbres », livre de Daniel Dufour, paru aux éditions du Pacifique. Bienvenue à vous, bienvenue à tous dans notre magazine de l'environnement en partenariat avec le service Planète Science du journal Le Monde, dont vous découvrirez tout à l'heure la question posée à nos invités par sa rédactrice en chef adjointe Gaëlle Dupont. Et merci à l'équipe qui m'entoure, Anaï Morales, avec nos complices toujours, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Fabien Capel.
Même à la plage, on reste accro à nos écrans, à nos jeux, nos mails et surtout nos séries préférées.
Ouais, je suis un bon consommateur de vidéos. Ouais.
Je pense pas que ça serait possible de venir sans téléphone en fait.
Si j'ai pas mon téléphone, je suis pas bien à la plaque.
Ça n'a l'air de rien, mais les chats mignons ou les gens qui tombent, ça entame sérieusement le capital santé de notre planète. Car pour transporter et stocker ces vidéos, il faut des serveurs, des data centers qui occupent d'immenses bâtiments et consomment beaucoup d'énergie. Une source de gaz à effet de serre. Maxime Efouyès est un jeune ingénieur déjà expérimenté sur la question du numérique et du climat.
Personne ne pense en cliquant sur Play sur Netflix au centre de données qui est appelé derrière et aux infrastructures réseau qui sont en train de tourner pour nous amener les données. Ou si on y pense, on se rend pas compte de la quantité d'énergie et d'électricité en fait que ça va demander derrière. Réfléchir à la quantité de vidéos que je regarde, réfléchir à la résolution des vidéos, donc essayer d'utiliser la plus petite résolution. Ne pas écouter de musique sur YouTube.
Eh oui, ne pas écouter de musique sur YouTube et se connecter à des vidéos. C'est un reportage qui a été diffusé sur France 2 le 14 août 2019. Messieurs, est-ce que le monde est devenu fou ? Sylvain Tesson.
En tout cas, il est devenu ultra connecté. Il y a une mise sous tension de 8 milliards d'êtres humains, enfin de 7, qui vont peu à peu, dans les années qui viennent, posséder tous un microprocesseur qui leur permettra de se connaître, comme nous disent les promoteurs de cette grande entreprise de communication générale, mais aussi de s'espionner, et peut-être de se haïr, et en tout cas de beaucoup s'envier. Et je crois que nous sommes soumis à un fantastique discours de bluff, marketing, que j'appellerais même une imposture, visant à penser que le salut de l'humanité vient de la nouvelle technologie. Mais depuis 20 ans que nous avons connu la révolution digitale autour de la planète, il ne me semble pas que l'humanité ait gagné ni en fantaisie, ni en poésie, ni surtout en altruisme.
Des vies devenues hâtives, hein, comme vous l'écrivez dans vos livres, Sylvain Tesson. Le tout de suite hein, de l'épilepsie moderne s'oppose au sans doute rien jamais de l'affût. C'est aussi ça, hein, c'est cette société projetée, le temps précipité.
Oui, l'épilepsie moderne, je parle sous la houlette du docteur Étienne. J'aime bien donner les titres, comme en Allemagne. Alors je parle sous la houlette du docteur Étienne. L'épilepsie a été assimilée à ce que vit la planète depuis la mutation Internet, mettons depuis ces 30 ou 40 dernières années, par un neurologue qui s'appelle le docteur Lionel Nakache, et qui a écrit un livre assez saisissant sur développant l'idée que la mise en relation de milliards de neurones dans le cerveau qui tout à coup s'allument, se connectent et échangent une information très pauvre, ressemble à ce qui est en train de se passer dans l'espèce de réseau Internet qui est en train de se tisser et qui est en train de provoquer des convulsions dont peut-être les grands tourments de l'actualité sont l'expression.
Docteur Étienne, alors, yes. Dites-nous.
Agité, certainement, mais surtout aussi en perte d'autonomie. L'individu perd son autonomie, on est sous l'avalanche d'informations permanentes et en général, celles qu'on nous annonce, on n'y peut pas grand-chose. Donc ça nous met en situation d'impuissance. Le soir, à la télévision, au journal télévisé, on connaît les gens qui présentent le journal, puisqu'ils sont là longtemps, ils font partie de la famille. Hein, et donc ce qu'ils nous annoncent, on le croit, et on perd beaucoup de libre arbitre sous cette avalanche-là. Et cette perte d'autonomie, je me suis penché dessus, effectivement, ça va demander de réapprendre à vivre avec soi-même, s'apprivoiser de nouveau soi-même, et tout ce qu'on a entendu de cette dépendance. Moi aussi, j'ai un téléphone portable, on est super connecté, mais on manque un peu de pédagogie sur les choses qu'il faut mettre en œuvre pour se préserver soi-même. Sinon, effectivement, c'est un rouleau compresseur, on tombe sous l'avalanche, quoi.
En sachant qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de cette génération qui n'a connu que ça,
oui.
Aujourd'hui complètement addicts, et voire même traités dans des départements d'hôpitaux spécialisés, Jean-Louis Étienne.
C'est une addiction. J'avais travaillé, moi, déjà avec des toxicomanes, j'avais traversé l'Atlantique avec le père Jaouen, avec des toxicomanes, des sorties de prison... J'avais trouvé une phrase, j'ai dit, attends, l'addiction, c'est un squat qui est chez toi, là, et qui est en train de te bouffer. Fous-le dehors! C'est une notion qui, en fait, c'est de la chimie. Hein. Et donc, je l'avais appelé le squat. Parce qu'il faut le matérialiser. Par cette matérialisation de la pensée sur ce que c'est que l'addiction, on arrive un peu à sensibiliser.
Sylvain Tesson, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut fuir le progrès pour pouvoir se déconnecter?
En tout cas, il faut fuir la connexion obligatoire. Je crois que les promoteurs de ce monde irénique qui viserait à promulguer le salut de l'humanité par la connexion totale et par le monde connecté relèvent encore une fois de l'imposture parce qu'il fait reculer les libertés, comme le rappelle le docteur Étienne. Et notamment, Jean-Louis Étienne, dans son livre, a relevé une phrase qui m'a saisi, je l'avais entendu prononcer il y a très longtemps, c'est la devise des compagnons du devoir, ni se servir, C'est une devise absolument superbe parce que c'est la devise de la liberté, mais de la liberté sans l'entrave à celle des autres et au contraire au service de quelque chose qui est supérieur à soi-même. Et ce que vous décrivez dans l'addiction, c'est le contraire de la devise des compagnons, puisqu'on est asservi à ce que vous appeliez le squat, à cette espèce de parasitologie voulue. Et puis en même temps, on se sert, parce qu'on devient un voyou et on est obligé de s'en prendre aux autres pour avoir sa cam ou toute forme d'addiction. Eh bien, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec la mise en connexion des 8 milliards d'êtres humains, par la grande promotion de ce discours universaliste cybernétique, est une forme d'asservissement davantage que de progrès vers la liberté.
C'est la raison pour laquelle, Sylvain Tesson, vous-même, vous avez des phrases saisissantes, puisque vous dites qu'il faut habiter le monde en poète et non en copropriétaire. Alors, Sylvain Tesson parle de cette copropriété, justement, mais de cette poésie aussi du monde. Jean-Louis Étienne, la cabane, c'est ce style de vie, cette manière d'habiter le monde qui, justement, peut permettre à chaque homme de retrouver ce qu'il est, c'est-à-dire de sortir de l'addiction.
Moi, ça me va bien, la cabane, depuis très longtemps, et bien sûr, elle a évolué. Et j'avais jamais imaginé avoir une maison en dur. C'était l'installation avec des fondations profondes. Et j'ai découvert une architecture de cabane quand j'ai habité quelque temps en Californie, dans les années 72-73. Et j'étais chez des gens à San Francisco, et on allait se balader. Et là, tout d'un coup, dans les bois d'eucalyptus, j'ai découvert l'architecture libre, en plus faite avec ses 10 doigts. Quoi. Donc cette liberté architecturale, cette liberté de création, cette légèreté, la transparence de ces maisons, voire sans être vu, avec une liberté totale d'imagination, je me suis dit, là, peut-être j'ai trouvé ce qui pourrait être ma maison. Quoi.
Mais c'est des rêves de môme aussi, parce que vous avez cette passion, vous êtes un bricoleur, un bâtisseur, vous auriez aimé être charpentier.
Ça, c'était mon souhait, parce qu'en fait, j'étais un piètre scolaire, quoi. et j'avais pas les notes pour entrer en sixième. Et donc, moi, je voulais être menuisier parce que depuis tout petit, le bois est une matière facile à travailler. C'est une matière aimante. On fait des choses facilement avec le bois, quoi. Et donc, depuis tout petit, je faisais ça. Je voulais faire menuisier. Et puis, au collège technique, j'ai été orienté vers autre chose. J'ai été orienté vers tourneur-fraiseur. Mais en fait, tout d'un coup, j'étais jugé par les choses que je faisais de mes 10 doigts. En fait, je le sais maintenant, j'ai très dyslexique, dysorthographique, et ça passe pas. Hein. Je me rends compte
mais
que
surtout
ça passe
à cette époque-là, on ne diagnostiquait pas et on ne traitait pas.
À l'école de Jules Ferry, j'avais des notes en dessous du niveau de la mer, pour tout vous dire.
Alors que vous adoriez le français, vous adoriez la poésie, vous étiez un lecteur quand même.
Ah oui.
Mais petit en souffrance.
Mais voyez, le lundi matin, au collège technique, on avait un sujet qui était la dissertation pour la semaine. Et j'adorais le moment où la professeure de français nous donnait le sujet de réflexion qui était la dissertation pour la semaine après. Mais je sais aujourd'hui que j'étais hors sujet, que j'étais sur des sujets avec des notes, une orthographe dramatique, quoi, hein. Mais pour terminer avec ça, et le travail manuel, en fait, être jugé sur cette formation professionnelle, ça m'a donné une confiance, tout d'un coup. Et c'est parti de là. La confiance que j'ai acquise de nouveau pour le parcours scolaire est venue de cette formation professionnelle.
Et ensuite, la fac de médecine, quand même.
Après,
docteur.
J'ai fait médecine. Après, j'ai fait interne en chirurgie. Alors, ce qui est génial, moi, j'adorais...
Bricoler.
C'est de la menuiserie.
Ouais, non, c'est ça. Moi, j'adorais l'orthopédie. L'orthopédie, on met des plaques, des vis, des broches. Enfin, tu connais ça, hein, malheureusement. Oui. Et moi, j'avais un CAP. Il faut faire des choses comme ça. Donc, ça m'a passionné. Ça a passionné. J'ai aimé la chirurgie. Et puis après, j'ai fait des expéditions.
Mais donc la cabane quand même, rêve de môme. Hein.
La cabane, rêve de môme, et puis elle a évolué. Mes cabanes, elles sont dans les bois, elles ne sont pas construites avec les arbres comme support. Ce sont des pilotis, en acacia, l'acacia est imputrescible un peu, hein, dans des bois sur une pente. Et donc elle est en pin douglas du secteur. Et il y en a une que j'ai faite avec un charpentier, l'autre que j'ai faite moi-même. Et je me souviens la première fois qu'il y a un copain qui est venu du Tarn, comme ça, il est venu. Oh, il m'a dit, c'est génial, mais il m'a dit, mais moi, je ne peux pas dire que j'habite dans une cabane. Mon patron me suspecterait d'être un peu marginal, quoi. En fait, ça a évolué aujourd'hui. On voit de plus en plus cette liberté de construction, quoi.
Sylvain Tesson, ça fait penser au livre que vous signez aussi avec Daniel Dufour, hein, « Des cabanes dans les arbres ». On se rend compte que ces cabanes, aujourd'hui, elles sont plus populaires. En tout cas, c'est peut-être le signe d'un besoin, d'un retour à la nature. Vous-même, vous avez expérimenté cette vie en cabane. C'était sur les bords du lac Baïkal. C'était de février à juillet 2010. En quoi est-ce que ça vous a changé? Vous êtes un peu aux antipodes tous les deux, juste par rapport à vos enfances. Sylvain Tesson, vous étiez enfant de Paris, en tout cas de la région parisienne. Vous alliez en vacances en Normandie, en Picardie. Jean-Louis Etienne, vous étiez un enfant de la campagne, un enfant du terroir. Mmh. Et en même temps, j'ai l'impression que tous les deux, vous montiez dans les arbres, quoi.
Oui, oui, les arbres sont le terrain de l'enfance. Et le feuillage des arbres est peut-être la bannière de l'esprit d'enfance. D'ailleurs, Jean-Louis Etienne, vous avez cette formule merveilleuse au début de votre livre. Les arbres étaient la toise de mes premiers défis. C'est-à-dire qu'avant le pôle Nord, avant Transantarctica, avant les grandes traversées atlantiques, il y avait d'abord le tilleul en bas de chez soi, ou le chêne pubescent, ou le pin. Il faudrait d'ailleurs expliquer à ce qui sert aujourd'hui de personnel de la fin de l'instruction, je ne sais pas comment on appelle ça dans la novlangue marketing débile, les pédagogues, je crois. Il faudrait peut-être leur expliquer qu'il ne faut pas empêcher les enfants de prendre le risque de monter aux arbres et que ça n'est pas grave d'avoir une égratignure à la rotule ou d'avoir un bras cassé quand on a 7 ans. L'arbre est extraordinaire, c'est le premier Himalaya, c'est la première forêt vierge, c'est la première descente de l'Amazonie. On ne se rend pas compte de ce qui peut naître dans l'esprit d'un enfant quand il réussit enfin à atteindre le sommet d'un arbre. C'est quelque chose qui dépassera toujours tous les programmes des professionnels de la pédagogie.
Et alors vous, quand vous étiez dans vos tilleuls, vos cèdres, vos peupliers d'Île-de-France, Sylvain Tesson, vous avez grimpé, vous êtes élevé, est-ce que vous aviez envie d'en redescendre?
Oui, alors après, il y a le syndrome du baron perché. Je ne redescendrai plus parce que je ne veux plus me faire gronder par les adultes. Alors l'arbre, c'est aussi l'endroit où se vit les premiers émois de l'anarchie. On comprend qu'on quitte la loi des hommes, la lourdeur des adultes, l'esprit de sérieux quand on monte dans les arbres. Et il est évident que chez ceux qui aiment les cabanes quand ils arrivent à l'âge adulte, il y a certainement une manière d'envelopper le retour aux cabanes quand on est âgé d'un discours philosophique, intellectuel, et socioculturel et économique. Mais si on est très honnête, on revient simplement payer sa dette à l'enfant qu'on fut.
Qu'est-ce qu'elles offrent, ces cabanes, arbres, Jean-Louis Etienne?
Oui, pour poursuivre ce que disait Sylvain, quand on grimpe aux arbres, c'est vrai qu'on combat sa peur. Plus on s'élève, plus il y a le vide, on combat sa peur. Et puis, je me souviens aussi, c'était au mois de mai ou au mois de juin, on va chercher dans les nids de pies ou dans les nids de tourterelles des bois. Moi, j'habitais à la campagne, derrière, j'avais des oiseaux apprivoisés. Et donc, quand on va les chercher dans le nid, ils ont déjà leurs plumes, il faut les cueillir avant de partir, avant qu'ils s'envolent, quoi. Et on arrive à voir des oiseaux apprivoisés, ce qui est très sympa de vivre avec les animaux, quoi, de tout près. Ces cabanes, si vous voulez, moi j'ai appelé ça mon port autonome. Sylvain est un grand voyageur et je suis sûr que le grand voyageur, le voyageur, il cherche toujours le coin où il va poser son sac en se disant « c'est là ». C'est là et avec un apaisement total, de dire « alors j'en ai vu des coins, je les ai écrits, des bois, au bord de la mer, au bord d'un lac, au cœur des forêts, hein, au perché ». Et puis en rentrant dans la traversée de l'Antarctique, ça avait duré 7 mois, c'était assez austère. Et je suis revenu chez moi dans le Tarn, voir mes parents, et je suis allé me balader, et sur un coteau, je me suis dit, mais bon sang, c'est là. Et ça a été sans discussion. Avant de construire une cabane, il faut avoir une idée de là où on va la mettre, parce que c'est la géographie du lieu qui dessine un peu la cabane, donc je me suis rentré là-dedans, construit, puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Comme tout d'un coup, j'avais un... à dire, mais tu es parti si loin pour venir te foutre là, là où je suis né, là où tout le monde me connaît, là où j'ai été enfant, là où j'étais médecin. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait cette synthèse où la racine forte du lieu est devenue quelque chose de très nourrissant, quoi.
Sylvain Tesson, on pense forcément aussi à tous vos périples hein, qui vous ont emmené loin. On parlait de cette cabane au bord du lac Baïkal, où vous avez clairement exprimé hein, dans le livre « Dans les forêts de Sibérie » le fait que ça vous avait permis de scruter votre vie intérieure. Et puis il y a eu cet accident en 2014, et puis vous êtes mis à regarder la France, le côté plus près, comme disait Jean-Louis Etienne. C'est, on peut aussi poser sa cabane, pas forcément au bout du monde, mais dans un terrain plus proche, ou qui nous dit peut-être plus de nous, et il est pas si loin.
Non, mais là, Jean-Louis Etienne fait référence à quelque chose de très profond, qui est la découverte soudain qu'il n'était peut-être pas la peine de faire le tour du monde dans tous les sens et frénétiquement pour trouver l'endroit qui vous correspondait. C'est une idée qui court dans l'arrière-pensée des hommes depuis la naissance de la littérature, quoi. Il y a une très belle phrase dans les Confessions de Saint-Augustin, la 10e confession, le chapitre 27, « Beauté, virgule, je t'ai cherché partout hors de moi-même, alors que c'était en moi-même que tu te trouvais. » L'idée qu'on fait le tour du monde et puis on revient finalement à soi, c'est une idée magnifique. Moi, pour l'instant, j'avoue que je suis encore en train de tourner dans la roue en plastique du petit hamster. Je n'ai pas encore rencontré de hamster qui disait « c'est là » et qui tout d'un coup s'arrête dans sa roue en plastique. Alors je continue à voyager beaucoup, mais je sais qu'un jour, je trouverai l'endroit où m'installer et que cet endroit-là sera constitué de 4 murs en bois, c'est-à-dire sera une cabane.
La sobriété, le silence, l'humilité, c'est ça ?
Oui, c'est cela, la sobriété, le silence, l'humilité, tout ce que vous décrivez là, qui sont des catégories du bénéfice existentiel qu'on peut trouver dans une cabane. Mais il y a également un bénéfice intellectuel, et même plus que ça, philosophique. C'est-à-dire que la cabane, en vertu de l'autonomie dont parlait Jean-Louis Etienne, qu'elle vous donne, la vie dans la cabane, s'oppose complètement aux directives de notre vie moderne, urbaine, de pays développés. Quelles sont les directives de cette société dans laquelle nous vivons en état d'asservissement ? C'est des directives qui nous imposent d'être ou de nous sentir partout, de tout savoir sur tout, d'avoir un avis sur tout et de n'avoir en même temps prise sur rien. Or, la cabane vous propose d'être à un seul endroit plutôt que partout. Elle vous propose de connaître parfaitement votre environnement, comme Henry David Thoreau connaissait l'étang de Walden, plutôt que de connaître toutes les nouvelles, je sais pas quoi, de la Corée du Nord ou des tweets de Trump. Elle vous permet d'avoir un seul principe, qui est le principe d'autonomie, mais pas trop d'opinion, plutôt que d'avoir un avis sur tout. Et elle vous permet d'accomplir parfois quelques actions qui sont effectives, parce que vous allez réparer votre toit ou puiser votre eau, et vous cesserez de n'avoir prise sur rien. Donc c'est fantastique, le rapport proportionnel entre la modestie de la vie en cabane et l'immense éventail de bénéfices existentiels et philosophiques, c'est un rapport immense.
Jean-Louis Etienne, ça fait forcément référence, hein, comme le disait Sylvain Tesson, à David Henry Thoreau.
Ah oui. Oui, David.
Walden, ou La vie dans les bois.
Walden. Ça m'avait marqué, c'est un très gros livre pour moi, mais chaque fois je tombais sur une phrase, et avec une phrase je faisais un rêve. Et Ce qui est intéressant, c'est ce lien intime, exactement ce qu'a vécu Sylvain, de l'affût. C'est-à-dire que Thoreau, il vit dans une cabane, proche d'un lac, dans une forêt. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a différents arbres, il y a un lac, il y a beaucoup d'animaux. Et son idée, c'était d'arriver à être un de ceux-là. Cette fusion qu'il cherchait avec ces vibrations qu'il essayait de sentir, d'entrer en communion, comme s'il faisait partie de toute cette faune qui était là. Et il est allé loin, il est resté 2 ans. Et il est arrivé à communiquer avec eux à sa façon. Il était géomètre aussi. Et alors donc, il dit, ce lac, on ne le connaît pas bien, donc il a attendu l'hiver que ça gèle avec des plombs. Il regardait le fond, il a fait la cartographie pour se rendre compte que finalement, personne n'avait rien à foutre de sa cartographie du lac et que les espèces vivaient avec ça sans sang. Donc il est sorti de cette exigence de géomètre pour entrer dans une sensibilité totale et effectivement être très heureux du regard d'un oiseau qui s'approche de vous. Ça, c'est un cadeau de la nature, quoi.
C'était au 19e siècle, Sylvain Tesson. En même temps, ce David Henry Thoreau, il fait aussi partie de vous, finalement. Il est très actuel, très moderne pour vous.
Oui, d'abord, il y a ce passage de la mesure du monde à l'appréciation du monde. Il a cessé d'être le rationnel qui met le monde en statistique pour devenir celui qui vit une conversation avec le monde. Et puis, son séjour dans la cabane de Walden s'accompagne d'une réflexion sur notamment les thématiques de la désobéissance, c'est-à-dire tout à coup, oui, l'acquisition de l'autonomie et de la liberté. Il y a chez les Russes, encore présent dans la psyché collective, si tant est qu'elle existe, il y a encore la tentation de la forêt et de la cabane pour échapper aux grandes forces d'asservissement de l'autorité. Il y a même un proverbe russe très beau qui se dit ainsi en russe, « Mayarata skrayu » Ma hutte est loin et moi, je ne sais rien. C'est-à-dire tout à coup l'aveu qu'on peut faire un pas de côté, se retirer de cette espèce de marche frénétique du monde à laquelle on est sommés tous de donner un avis ou de prendre part. Tout à coup, Walden, Thoreau, la vie dans les bois, la hutte de l'ermite russe permet ce retrait, cette rétraction qui est un mouvement superbe.
Oui. Moi, je le vois parce que, effectivement, j'ai ces cabanes dans le Tarn dont on parle, mais j'habite la grande majorité du temps à Paris. Comme ça fait longtemps que je l'ai, je connais le lieu parfaitement. J'ai le sentiment que les arbres m'attendaient. Il y a une espèce de relation intime qui se crée avec ce qui... Et c'est un nettoyage du monde. Des fois, il suffit pas longtemps. Et ce nettoyage du monde, en fait, je suis arrivé à le faire. Bien sûr, quand je suis sur place, je me pince pour me dire j'y suis. Parce qu'en fait, je me sers de la cabane ici à Paris. Je m'en sers, je peux... En traversant le pont sur la Seine, là, quand je suis venu, il y avait du vent, je peux fermer les yeux, je me dis que je suis dans ce bois, je connais parfaitement le chemin qui mène chez moi et le revivre. Donc, je peux me resservir.
Pour vous ressourcer, c'est ça?
Me ressourcer, oui. Et donc, je dis tout le temps racine, oui, enracinement, non. Ça ne veut pas dire qu'on a son poids d'autonome, comme je l'appelle quelque part. C'est à partir de là, au contraire, j'appelle à ses forces quand j'en ai besoin et ça me sert énormément.
Alors, on va se ressourcer avec votre choix musical, Jean-Louis Etienne. Vous avez choisi de nous faire écouter Bob Dylan, Gotta Serve Somebody.
Yeah.
Et pourquoi?
J'adore Bob Dylan depuis longtemps. J'étais jeune, jouais de la guitare. Hugo Frey a chanté Bob Dylan et je connais ses chansons.
Guitare construite de vos mains,
à la
en
première,
bois,
oui.
C'est ça,
à la première
quand même,
guitare,
le menuisier.
Hein. Et oui, j'ai construit ma première guitare, puis après, on a fait cadeau d'une autre. On a toujours quelqu'un à servir, qui que l'on soit. On est redevable toujours de quelque chose.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief.
may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
It may be a state trooper, it may be a young Turk, may be the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe you're a construction worker working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody.
Et c'est la suite de notre émission De Cause à Effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui à notre rapport à la nature, à l'environnement, l'art d'habiter le monde et d'en fuir l'agitation. Nous en parlons aujourd'hui avec deux arpenteurs de ce monde, mais qui en appellent aussi à l'immobilité, le silence, l'harmonie de l'homme avec le vivant. Jean-Louis Etienne, médecin, aventurier explorateur, et dont le dernier livre s'intitule « Aux arbres citoyens », un livre édité chez Paulsen. Et avec nous aussi Sylvain Tesson, géographe, écrivain, auteur de « La panthère des neiges », un livre paru chez Gallimard et préfacié du livre « Des cabanes dans les arbres », livre commis avec Daniel Dufour et paru aux éditions du Pacifique. Mais sans plus attendre, je vous propose de prendre la direction des pages planète du journal Le Monde, la direction de la rédaction avec vous, Gaëlle Dupont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe de ces pages planète science du journal Le Monde. Et donc, c'est la mutation urbaine, Gaëlle, qui vous a inspiré, je crois, pour questionner nos invités.
Le Monde s'en est fait l'écho dans une série d'articles cet été. Les cabanes sont à la mode chez les urbains et elles sont à la mode y compris dans l'hôtellerie. Alors certaines sont très simples, mais les plus hauts de gamme proposent des chambres 5 étoiles dans les arbres avec jacuzzi, wifi, lit king size et cafetière à dosettes. Je voulais savoir ce que traduisait cette évolution selon vous et si vous iriez dans ce type d'hébergement.
Sylvain Tesson.
Écoutez, je suis absolument confus, mais d'abord, je ne connaissais pas ces nouvelles dispositions. Puis, je vous avoue que ça m'intéresse modérément. Ça ne m'étonne pas tellement qu'on mette des cafetières électriques au sommet des arbres. Ça fait partie de ce fétichisme, de ce snobisme qui consiste à faire que nous nous déplaçons dans des endroits qui nous semblent nous arracher à notre condition, mais en nous entourant de tout le fatras, le barnum et la kermesse et la ferblanterie qui nous y ramène. Moi, personnellement, je préfère aller dans des arbres où il n'y a pas de wifi, parce que je crois à la magie des arbres et je n'ai pas besoin que ça capte, puisque l'arbre reçoit les rayons du soleil, on n'a pas besoin qu'il reçoive les rayons de l'internet. Je crois beaucoup à la magie des arbres. Je veux d'ailleurs rappeler qu'il y a un chapitre de Jean-Louis Etienne qui vraiment commence par une incantation magique que je trouve merveilleuse. Les arbres partent de si peu. Et c'est très vrai, quand on est devant un arbre, c'est une telle leçon de modestie que aller le coiffer d'une cafetière électrique Nespresso est vraiment un crime, non pas contre l'humanité, mais contre le monde arboré.
Jean-Louis Etienne.
Ah, je ne peux rien rajouter à ce que dit Sylvain, qui a tout à fait décrit, effectivement. Moi, j'ai ma cabane, si vous voulez, dans le Tarn, et je ne vais pas avoir idée. En fait, ils ont simplement changé de décor et ils ont amené leur luxe. Donc, ça ne marche pas, si vous voulez. On est passé d'une autonomie agraire à une dépendance grégaire. Cette autonomie agraire que nous donnait la culture, que nous donnait ce que l'on peut retirer du sol quand on vit dehors, à une dépendance grégaire. On dépend et dans cette société de cul de plomb où on ne bouge pratiquement plus, on a cette dépendance au groupe. Il n'y a que les sauts et les huîtres qui adhèrent, disait Paul Valéry.
Non, je voulais juste vous demander si le fait qu'il y ait cette demande qui soit manifestement de plus en plus importante pour ce type de séjour, que les urbains aient envie d'aller passer du temps malgré tout dans les arbres, quel que soit le type d'équipement qui y est proposé, même pour des week-ends ou des vacances, est-ce que ça traduit quand même une évolution dans la société ?
Oui, ça signifie qu'il y a un besoin de nature. de toute évidence. On va dire que ça part d'une bonne intention si c'est pour se rapprocher de la nature.
Merci Gaël Dupont et merci à l'équipe des pages Planète du journal Le Monde. Bien sûr, les articles sur le sujet sont à retrouver sur notre site et sur celui du monde.fr.
Alors là, c'est un peu le meilleur quand même de 6 expéditions au Tibet sur les hauts plateaux à la recherche des animaux qui y vivent, donc des animaux très endémiques qu'on trouve que là-bas, avec bien sûr le Graal, c'est la panthère des neiges ou le léopard des neiges. C'est une espèce qui me fait rêver depuis tout gamin et j'ai fait 3 expéditions sans la voir. Et à la 4e, j'ai pu voir ce fameux fantôme de l'Himalaya. La panthère des neiges, c'est vraiment... C'est la reine de son milieu, quoi. C'est impressionnant. Elle te voit. Sur les 3 premières expéditions sans la voir, je suis persuadé qu'elle m'a vu multiples fois, de nombreuses fois. Et donc, c'est toujours un peu le chat et la souris, mais c'est toujours elle qui gagne. C'est la reine du camouflage. C'est impressionnant de la voir, comment elle est mimétique avec les rochers. Et donc, ce sont des heures et des heures, des jours et des jours d'affût. J'aime beaucoup utiliser des cavernes ou des points hauts et j'observe. Je scanne la montagne avec mon télescope, avec les jumelles. Donc c'est des fois 8 heures, 12 heures, les yeux dans les jumelles, à tout regarder pour essayer de voir le moindre petit rocher qui pourrait bouger. Et une fois qu'on a la panthère, il faut plus la lâcher. Il faut vraiment bien essayer de pas la perdre. Et après, elle peut ne pas avoir peur. Comme tous les grands félins, ils ont une maîtrise de leur environnement, d'eux aussi, et on les voit, on les sent jamais paniquer, quoi. Ça m'est arrivé de les avoir à quelques dizaines de mètres.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'était la voix de Vincent Munier, grand photographe, interviewé le 19 juin 2018 sur France 3 Grand Est. De retour du Tibet, se mettre en résonance avec la nature, Sylvain Tesson, apprendre à la regarder autrement, et puis l'immobilité, le silence, l'observation. Cette expérience, vous l'avez vécue avec lui?
Oui, il m'a invité à venir sur le plateau tibétain qu'il connaissait bien pour y être allé une dizaine de fois avant que j'y retournât avec lui. Et il m'a invité à venir observer la faune qui se distribue entre 4 et 5 000 mètres d'altitude dans le centre du Tibet, au nord du plateau du Changtang et puis ensuite aux sources du Mékong. Et je suis retourné avec lui au début de l'automne, pour la deuxième fois, pour reprendre des observations.
Et donc des animaux braconnés, chassés, vous avez rencontré les yaks sauvages, des loups, d'autres animaux, et puis cette panthère du Tibet là, qui était comme une quête finalement.
Oui, moi je croyais d'abord dans un premier temps qu'elle avait disparu. J'avais lu le célèbre roman de Peter Mathiesen, paru en 1973 dans la traduction française, et qui raconte la traque de deux naturalistes qui cherchent la panthère des neiges dans le pot. Finalement, Peter Mathiesen ne l'a jamais vue. Je me demandais si elle existait encore. Vincent Meunier me prétendait que oui, et puis il m'a fait vraiment l'amitié de m'emmener me poster à l'affût, et je l'ai vue à plusieurs reprises, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quand nous sommes retournés au Tibet.
L'affût, alors racontez-nous, parce qu'on sent quand même dans votre livre, hein, la panthère des neiges, que c'était pas votre posture habituelle et qu'il a fallu que vous rentriez aussi dans cette immobilité.
Oui, moi je connaissais davantage le goût du mouvement. Je suis parti maintenant pendant presque 3 décennies à la poursuite de moi-même. Je suis mon ombre. D'ailleurs, je suis mon ombre parce que je voyage souvent avec le soleil du crépuscule derrière moi, puisque j'avance vers l'est. Je vais beaucoup vers l'est, vers la Russie, vers les steppes. Et je suis souvent en train de marcher. Je croyais jusqu'alors que l'intensité, l'intérêt de la vie venait de la naissance, de la variété des situations, des impressions, des émotions et des sensations nées du mouvement. Et voilà que soudain, Vincent Meunier me propose une autre modalité, qui est la modalité de l'immobilité, de la patience, du silence, de l'attente, de l'attention, et parfois de l'émerveillement si jamais quelque chose apparaît, mais ça n'est pas sûr que quelque chose apparaisse. Donc il faut accepter soudain que rien ne se passe. Et ça, c'est quelque chose de très anti-moderne, puisque aujourd'hui, nous vivons dans une époque où nous voulons tout, tout de suite. Et voilà que Meunier me dit, peut-être rien, jamais. Alors évidemment, au début, je me disais, je ne supporterais pas, moi. Je l'ai très bien supporté parce que, à force de regarder, de scruter le monde qui vous environne, on s'aperçoit tout à coup qu'il y a beaucoup plus de choses que nous le soupçonnions qui se passent autour de nous.
Jean-Louis Etienne.
Meunier est un guide. Je ne sais pas si chacun de nous se met à l'affût sans savoir ce qui va arriver. C'est compliqué, donc il y a déjà une appétence.
que dans le milieu, qui permet de tenir en disant si elle va arriver. Donc il y a cet encouragement. Et je rebondis sur ce que disait Sylvain Lestang, je suis mon ombre. Moi, en allant au pôle Nord, je n'ai fait que ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de boussole qui marche au pôle Nord. Et donc la seule façon de trouver la bonne direction, c'était le soleil. Le soleil est un astre très fiable. 6h du matin, quand on est à une heure solaire locale, il est plein est. Midi, il est plein sud. 18h, il est plein ouest. Et donc, moi, je partais à 8h, le soleil était là, comme ça, et au fur et à mesure que j'avançais, à midi, je marchais sur mon ombre, et puis je m'arrêtais quand l'ombre était là. C'était rigolo, donc c'était la façon dont je suis arrivé, dirigé vers le pôle Nord.
Et alors, cette quête, Sylvain Tesson, vous avez attendu combien de temps avant de la voir enfin, cette panthère ?
Jean-Louis Etienne a raison de signaler qu'il y a d'abord une lecture du paysage, c'est-à-dire que les affûts couronnés souvent de la récompense d'une rencontre ne procède pas du hasard. C'est-à-dire que Vincent Meunier, non seulement est un photographe, mais c'est avant tout un naturaliste et un éthologue. Il sait lire le paysage, comme un urbaniste lit le paysage urbain et sait que des populations se déplacent à certaines heures de la journée dans certains quartiers, selon certains mouvements. Eh bien, le naturaliste voit le paysage comme un décor intelligent. Il sait que les bêtes sont susceptibles d'arriver là, de se porter ici, d'apparaître là, de surgir là ou de disparaître ici. Donc je n'arrivais pas démuni de toute compréhension préalable du paysage, puisque j'avais Vincent Meunier qui me faisait une lecture et un décryptage préalable. Et donc nous nous installions dans des endroits où nous pensions qu'il y avait la possibilité de l'apparition d'un ours, ce qui est arrivé il y a 2 mois, ou bien d'une panthère, ce qui est arrivé à plusieurs reprises il y a 1 an. Voilà comment se passe l'affût. C'est une attente, on offre une espérance à l'absence des bêtes, on offre une attention à leur fugacité et on offre une patience à leur rareté.
Mais alors, ce que vous nous dites, finalement, c'est en arpentant le monde, en étant au contact de cette nature depuis 30 ans, hein, Sylvain Tesson, vous n'êtes pas forcément devenu un lecteur de la nature. Et pourtant, et l'un et l'autre, hein, Jean-Louis Etienne, vous me direz si je me trompe, mais je ne crois pas. Je crois que vous avez été tous les deux nourris aussi par un naturaliste français du 19e siècle, Jean-Henri Fabre. Est-ce que lui ne vous avait pas donné peut-être les codes pour devenir vous-même des lecteurs de la nature?
Non, les souvenirs entomologiques de Fabre nous donnent un goût de la beauté, beauté absolue de la nature. Quand il parle de la cigale, de la sauterelle et de tout le peuple stridulant et sautillant et rampant du Mont Ventoux, il donne un aperçu de la beauté extraordinaire du monde. Mais ça n'est pas en lisant les souvenirs entomologiques de Fabre qu'on peut devenir un chasseur de papillons ou un chasseur subtil, comme disait Hans Junger, de qualité. Et pour cela, il faut un autre travail. Il faut un travail d'éthologue, de naturaliste, de scientifique. Ou alors, il faut l'expérience de l'affût et celle que Vincent Meunier, depuis 30 ans qu'il pratique l'affût, a acquise.
Jean-Louis Etienne.
Jean-Henri Fabre, il y a un livre de lui que j'ai jamais très loin qui s'appelle « Ma plante ». Oui, parce que Fabre est un pédagogue extraordinaire. Il a des images. Et c'était devenu un grand pédagogue. Il échangeait avec Darwin. Cet homme-là, il aurait dû être prix Nobel, mais quand on s'en est aperçu, il était déjà mort. Et puis, à un moment donné, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'il soit à l'Académie des sciences, cet homme-là. Mais pour être à l'Académie des sciences, il fallait habiter Paris. Il a dit, mais moi, je reste dans mon secteur, dans le Vaucluse. Voilà. C'est un pédagogue. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres scolaires. Et pour moi, c'est un grand inspirateur dans la façon qu'il a de trouver des images avec des mots simples qui, tout d'un coup... Voilà. Et le livre que j'ai écrit sur les arbres, je le dois beaucoup dans le vocabulaire, dans la recherche des images pour expliquer des choses complexes avec des mots simples à Jean-Henri Fabre.
Mais alors concrètement, Jean-Louis Etienne, est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un moment où vous avez éprouvé cette sensation de faire corps avec la nature,
oui,
de
oui.
vous fondre en elle?
Oui, j'ai des souvenirs, j'en ai plusieurs. Un dans le Tarn, où je me suis arrêté, il y a un campagnol, un petit chemin comme ça, c'est juste à côté de chez moi. Il y avait 2 allées de pruneliers, assez étroites. Je me suis arrêté, puisque je regardais. Tout d'un coup, je vois un campagnol là, qui était à 2 mètres. Puis il avance, et il est monté sur ma chaussure. Oh, ça, c'est la rencontre. On se dit, je fais partie de la nature, tu vois, c'est un truc comme ça. Puis un autre dans l'Arctique, j'avais fait un hivernage, à la fin de l'hivernage, il faisait jour, j'étais allé m'allonger là sur le bord de l'océan Arctique, mais enfin, j'étais sur des rochers tranquillement, et une mouette ivoire était tout près. Une mouette ivoire, c'est un magnifique oiseau, c'est assez rare. Et donc, je me suis réveillé, je m'étais endormi. Elle était là, tout près. Et tout d'un coup, c'est le mystère quand même. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce qu'elle pense? Et moi, j'ai essayé de ne penser à rien. simplement essayer de sentir cette présence, de ne pas la peurer, de manière à ce que j'aurais tellement aimé qu'elle vienne se poser sur mon épaule, quelque chose de jusque-là, mais bon, j'ai pas bougé. Puis à un moment donné, je me suis bougé, puis elle est repartie. Ça, c'est des moments d'une intensité, d'une relation intense, quoi.
Qu'est-ce qu'elle a pu penser de vous, hein, Sylvain Tesson, la panthère du Tibet, à votre avis? De vous et puis de vous, les hommes?
Pas grand-chose. La première fois que je l'ai vue, mon regard a croisé le sien et elle a bâillé. Et voilà tous les faits que j'ai fait aux panthères.
Elle avait faim.
Et peut-être pas qu'à elle. Ah oui, elle a peut-être bâillé de faim, vous avez raison. Elle a peut-être salivé.
Salivé.
Non, je crois malheureusement qu'elle bâillait parce qu'elle s'est dit, mais mon Dieu, que les hommes sont ennuyeux. Ce en quoi elle avait raison, car c'est ce que nous apprennent les bêtes, c'est que ce rapport qu'elles entretiennent avec leur environnement, leur écosystème, qui pour la panthère est très difficile. On est dans des endroits où l'air est raréfié, entre 4 et 5500 mètres d'altitude, dans des hivers où la température descend à moins 30, et pourtant elle vit des journées de sieste, de gloire, de chasse, de volupté, de course. Tout cela est tout de même un peu plus palpitant que nous autres qui nous traînons derrière notre hypoxie.
En tout cas, vous étiez dans une quête, on le sent à travers votre livre, Sylvain Tesson, cette panthère du Tibet, c'était aussi pour vous une figure féminine que vous recherchiez. Vous évoquez votre mère, vous évoquez aussi une femme aimée.
Oui, je pense beaucoup, moi, que la vision des animaux qui nous électrocute, qui nous saisit pour peu qu'on les aime, c'est toujours une jouvence, c'est toujours un miracle quand on voit une bête devant soi. L'évocation de la mouette ivoire de Jean-Louis Etienne me rappelle, moi, ce week-end, j'ai fait une escalade. Je sais que Jean-Louis Etienne est grimpeur. Je grimpais en artif, comme on dit dans le jargon, en artificiel, une grande paroi en dévers dans les calanques. Nous étions depuis des heures accrochés à nos pitons rouillés, quand soudain un tichodrome, qui est un oiseau des falaises, un oiseau qui circule la tête en bas sur les parois, est venu tout près de nous. Et c'était comme une jouvence de le voir. C'est comme un éclat de cette efflorescence incroyable des formes du vivant, de l'évolution. Et moi, je crois, c'est ce que vous évoquez, de la vision des femmes que j'ai aimées et qui ont disparu dans ma vie, ma mère ou les femmes dont je me suis séparé, je crois profondément que la vision d'une bête rallume en vous des souvenirs éteints.
Jean-Louis Etienne, j'ai l'impression que ce qui vous rassemble tous les deux, c'est de n'avoir peut-être pas su ou pas pu garder l'être aimé à vos côtés. Est-ce que c'est le propre de l'aventurier inévitablement solitaire?
Il y a deux choses dans ce que vous dites là. Il y a solitaire, ça c'est solitaire depuis petit. La solitude m'est indispensable. C'est devenu presque un compagnonnage, quoi. Hein. Mais j'ai aussi fait des choses avec des groupes. J'étais demi de mêlée au Castres Olympique, par exemple. J'ai navigué, fait la course autour du monde avec Tabarly. On était 14 entassés sur un bateau. Ensuite, vous avez évoqué effectivement les personnes aimées. Donc j'ai une formule. J'ai dit que pendant 55 ans, j'étais l'homme de ma vie. Et donc je choisissais les choses que je voulais faire à l'instant où je voulais les faire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas devenu l'homme de ma vie. J'ai aujourd'hui des enfants qui m'apportent beaucoup de choses, quoi. Hein. Mais c'est vrai que je me suis octroyé la liberté d'inventer ma vie, quoi. L'histoire de faire des expéditions, à la fois, ça doit me guérir de quelque chose, quoi. Hein. Et ça nourrit une créativité. Chaque fois qu'il y a une expédition, je conçois qu'on va créer quelque chose, on va bâtir un truc, on va construire un nouveau engin pour aller l'explorer. Voilà, ça fait partie d'un tout. Et j'aime bien parler de la nature, parler de questions environnementales aujourd'hui, en essayant toujours de m'appuyer sur mon expérience de terrain, comme c'est lui, il y a été. Hein. Lui, il peut en parler, une espèce de légitimité que donne le terrain. Hein. Ça, c'est, on revient, on y a. Le mec, il a vu, quoi. Il y a été. Donc, on a cette responsabilité en même temps, parce qu'on projette sur vous quelque chose et vous revenez avec un message. Et j'aime bien faire de la pédagogie sur ces questions environnementales et de nature à partir d'expériences que j'ai connues.
Sylvain Tesson, je fais forcément référence à cette phrase aussi dans votre dernier livre, hein, puisque voilà, vous le dites très clairement quand vous parlez de cette femme aimée. « Je la perdis, elle ne voulut pas de moi parce que je refusais de me livrer pieds et poings liés à l'amour de la nature. »
Oui, parce que c'était une femme qui me proposait la vie intégralement vouée à la nature et que moi je continuais à l'époque à être urbain. mais un faux urbain, un urbain agité qui partait autour du monde, enfin un voyageur. Je crois qu'il y a une certaine antinomie, oui, vous avez raison, mais bien que les généralités en la matière sont toujours assez malvenues, mais il y a une forme d'antinomie entre la vie amoureuse qui demande, qui impose un certain établissement, et puis la vie agitée, la vie de mouvement. C'est difficile tout de même. Ou alors on fait comme Ulysse dans l'Odyssée. On voyage, on va faire la guerre, on va inventer le cheval de Troie, on va coucher avec des déesses sur les îles pendant quelques années, avec des cocotiers, et puis un jour on revient en espérant que Pénélope vous attend, et il se trouve qu'elle vous attend 20 ans plus tard, et alors tout est merveilleux. Mais tout ça, c'est de la littérature. Même pire que ça, c'est de la mythologie. Donc il est fort probable que ce schéma-là ne soit ni recommandable, ni très plausible.
Je me rends compte que, effectivement, j'ai plusieurs fois donné mon cœur, mais j'ai toujours eu de la peine à donner mon existence, quoi. Je l'ai gardé pour moi. Je la partage aussi aujourd'hui.
Et c'est dentaire. Alors, faire vôtre, Sylvain Tesson, l'immobilité comme poste d'observation, est-ce que c'est une position que vous imaginez aujourd'hui ?
Oui, mais moi, je ne suis pas un être du choix radical. Je n'aime pas opposer les modalités ni les états. Je pense que on peut vivre une vie plus nuancée, enfin, c'est-à-dire plus complexe, en fait. On n'est pas forcé de décider un jour qu'on va s'enraciner et adhérer au rocher comme l'huître, ou bien alors qu'on va être comme le plancton ou le rhizome, en train de naviguer au gré des courants. Il y a des positions médianes, il y a des positions qui permettent une oscillation, mais en tout cas, il est probable que je recommencerai très souvent à vivre ce que j'ai compris dans l'affût, c'est-à-dire que la patience procurait au moins autant de variations du décor que le mouvement. Ma grande découverte, c'est qu'on peut laisser venir à soi la variation du monde et sa métamorphose sans être obligé de courir comme un dératé.
Et à Paris, vous vous mettez à l'affût aujourd'hui ?
Oui, parce que c'est aussi l'enseignement que j'ai reçu du séjour avec Vincent Meunier, c'est qu'on n'est pas toujours obligé d'aller à 5000 mètres au Tibet, d'autant que c'est compliqué. Et on peut vivre l'affût, vraiment on peut, sur le bord de la Seine. Moi j'habite dans le centre de Paris, j'ai la chance d'avoir un fleuve qui passe en bas de chez moi qui s'appelle la Seine. Eh bien si vous restez pendant un quart d'heure, les yeux ouverts, une demi-heure, une heure, cinq heures si vous avez le temps, sur un banc sous le sol pleureur du pont national, vous voyez des oies qui passent, vous voyez des cygnes sauvages, c'est absolument extraordinaire, vous voyez des échassiers qui sont là, vous avez l'impression parfois qu'il y a des oiseaux perdus, mais en fait ils sont pas perdus, ils sont comme les touristes qui sont juste au-dessus en train de voir Notre-Dame, ils viennent de loin et ils sont de passage.
Jean-Louis-Étienne.
Il y a un apprentissage, pour se déshabituer du monde, de l'agitation du monde, et ça prend du temps. Mon expérience la plus longue que j'ai connue en solitaire, c'était en allant au pôle Nord, j'y suis allé pour être un héros. Être le premier qui atteint le pôle Nord en solitaire. Et vous avez bien compris que je n'y ai pas été pour être seul, quoi. C'est pas la peine d'aller si loin. J'y étais pour être le seul. Et en fait, je suis parti avec une ambition d'être le mec qui allait atteindre le pôle Nord. Et tout d'un coup, j'étais passé à la télé avec mon traîneau, à une émission qui avait Yves Mourouzi au 13h, vous voyez, il y a longtemps. Ouais. Et donc, j'étais déjà un peu le héros, quoi. Et tout d'un coup, la réalité me tombe dessus, quoi. C'est-à-dire les basses températures, le chaos de la glace. Et tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? C'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus intense que j'avais imaginé. Et en fait, je me suis dit, je suis sur un parcours, il faut que j'y aille. Et petit à petit, je me suis déshabitué du monde. Et ça m'a pris du temps. C'est pas comme le Tour de France, il y a personne sur le côté qui dit, vas-y. Et donc, les forces, on les a en soi. Et là, j'ai découvert que on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On a des capacités que l'on ignore de soi. Et je suis entré petit à petit dans cette déshabituation du monde. C'était des béquilles, quoi. Partir pour être le premier, ça ne rime à rien, vous voyez. Autant le mec qui a découvert le pôle Nord pour la première fois, Piri peut-être, ou Cook peut-être, un des deux, ou aucun des deux, je ne sais pas, mais ils allaient sur un terrain inconnu. Même si je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire avant le GPS et avant le téléphone. Donc il y avait une retraite intense. C'est ça qui a été très formateur pour moi. Et mon affût, c'était ce pôle Nord, tout à fait là-bas. Et il n'y a rien au pôle Nord, puisque c'est au milieu d'un océan gelé qui dérive en plus, quoi, hein. Si on voulait faire l'émission la prochaine au pôle Nord même, il faudrait qu'on marche, parce que des fois ça dérive de 4 ou 5 kilomètres, quoi, hein. Donc voilà. Et donc se déshabituer du monde, ce qu'a fait Sylvain à l'affût, et je le souhaite pour les enfants. Et donc, on apprenait l'éducation physique. élever son cul au-dessus de l'élastique à un mètre. Ça n'a jamais fait développer le corps, hein, quoi. Surtout qu'on le faisait qu'une fois par semaine, quoi. Mais par contre, essayer de mettre des enfants assis dans une classe sans aucun truc, assis, et apprendre à ne pas commencer à peindre. Au début, ils vont pincer le voisin, faire les cons. Petit à petit, à être capable de passer un peu de temps avec soi. Je crois que c'est un apprentissage qu'il va falloir développer, quoi.
Mais ce pôle Nord, ce fut aussi un déclic, Jean-Louis Etienne. Aujourd'hui, vous faites en sorte, comme vous le disiez dans l'émission, de sensibiliser, de porter votre parole aussi par rapport à l'évolution du monde, à la planète, l'acidification des océans, la fonte des glaces. Il y a ce projet pour la Port d'Envue, hein, parce que on a parlé de votre cabane. Un jour, peut-être que vous n'en bougerez plus de votre cabane. Mais il y a Polarpod, ce projet incroyable qui vous motive depuis combien de temps maintenant? 10 ans.
Ah, ça va faire 10 ans bientôt, oui.
Un vaisseau vertical imaginé pour vivre une dérive autour de l'Antarctique, pour aller étudier l'océan austral et puis le faire suffisamment vite aussi, avant qu'il ne soit peut-être trop tard, mais pour découvrir cet univers encore inconnu.
Polarpod, c'est parti d'une idée, en fait d'une idée, d'une réalité, c'est que on va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, donc, c'est le continent du pôle sud. C'est un immense océan qui unit les trois océans, Atlantique, Indien, Pacifique, une espèce de courroie de transmission. C'est loin, c'est entre 50 et 55 sud, ce que les marins appellent les 50e hurlants, donc c'est une mer assez agitée. Et toutes les publications se terminent très agité. Oui. Et toutes les publications se terminent, on a besoin de mesurer in situ de longue durée. Donc la question, c'était quel type de vaisseau on peut construire pour s'installer sur cet océan, pour faire des mesures. Parce que c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. C'est-à-dire que le CO2 que l'on émet annexé, le dioxyde de carbone, se dissout surtout dans les eaux froides. Et donc cette immense surface océanique d'eau froide, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Et donc, les modèles climatiques sont en attente, on va dire, on a besoin de cette mesure sur la durée. Et donc, c'est un vaisseau qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau. C'est un tube, hein, en fait, un flotteur. Il y a 80 mètres sous l'eau, et donc on est pris dans des eaux stables, et à la surface, c'est un treillis, donc les vagues nous passent à travers. Donc c'est très stable, et on va mesurer ces changes atmosphère-océan. Donc, j'ai une suite là pour Sylvain. Il y aura 8 personnes à bord. D'abord, je disais, il y aura 7 personnes à bord. Il y a 3 marins, des professionnels, et 4 scientifiques, des professionnels. Je ne suis ni marin professionnel, ni scientifique professionnel. Il dit, il y en a 7. Et on me dit, vous n'y allez pas? On se dit, mais bien sûr, j'ai envie d'y aller. Donc, il y aura 8 places. Et donc, on sera relayé tous les 2 mois. Voilà, il y a une place, Sylvain. C'est un lieu d'observatoire. On va passer du temps à regarder les plus grosses vagues du monde, à regarder un peu la faune qui est là autour, à faire des mesures, regarder le rôle de cet océan. À 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. On va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. On connaît le cri de la baleine bleue, de l'orque, etc. Donc voilà, quand j'aurai débarqué après 2 mois, il y a une cabine, un bout de cabine. C'est tout petit, minuscule, qui sera libre, Sylvain.
Sylvain Tesson.
Ah bah écoutez, c'est la première fois que je viens à une émission de radio pour recevoir une invitation pareille. J'en suis très touché, je suis déjà impatient. Et j'avoue que si vous nous aviez réunis il y a 30 ans et que le docteur Étienne m'avait proposé de l'accompagner au pôle Nord ou même au pôle Sud dans l'expédition Transantarctica, j'aurais été moins content de l'invitation. Mais celle-là me ravit.
C'est un poste à l'affût et il faut avoir des personnes. Donc les marins sont habitués à passer du temps à regarder la mer. En paix. Et les marins ont cet apprentissage parce qu'il ne se passe pas toujours grand-chose en mer. Et on affine le regard, on va de plus en plus dans les petites choses, un changement de lumière, une forme de nuage, une vague. On apprend à lire le détail quand on passe du temps en mer.
En sachant, Jean-Louis Etienne, que cet océan Antarctique, on n'en connaît quasiment rien. C'est-à-dire c'est le mystère complet.
Pas le mystère complet. La France fait, depuis les scientifiques français vont de la Réunion à Kerguelen, si vous voulez.
Oui.
Et il y a des Australiens un petit peu. Mais ce que nous allons faire, c'est une étude en permanence, aux 4 saisons. Ça va durer 2 ans, le tour. Ce qui fait la valeur d'une mesure scientifique, c'est la durée. C'est pour ça que les satellites sont bien. Les satellites, ils font de la mesure en permanence. Ils passent et ils repassent. C'est les jours fériés, même Noël. Il y a en permanence, quoi. Et c'est sur la durée qu'on peut dire, tiens, ça évolue, ça change. Et donc, c'est ce dont on manque, là. Et on va y rester 2 ans. Ça va permettre de connaître un petit peu plus de cet océan.
A priori, un départ, est-ce qu'on
2023,
peut aujourd'hui... Ah, ça s'est précisé.
Je pousse. Il faut partir de préférence au début de l'année, c'est-à-dire quand c'est l'été austral.
Bon, mais Sylvain Tesson a le temps de mettre ça en place dans son agenda 2023, c'est peut-être jouable, non ?
Oui, oui, moi je serais plus que... Je me prépare déjà.
Allez, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander à l'un et l'autre votre geste écolo pour la planète. Jean-Louis Etienne.
J'ai 80 panneaux solaires sur à la campagne dans le Tarn, donc je suis un producteur, disons, je produis bien davantage que je ne consomme, un producteur. Et ensuite, je marche. Vous voyez, je faisais du scooter à Paris, et j'ai eu deux ou trois frayeurs récemment, là, et je me suis dit, il est peut-être temps d'arrêter, quoi. Hein. Et en fait, je me suis dit, marcher, c'est un bonheur. Ça me fait du bien, donc voilà, je participe à ma façon. Et puis, c'est bon pour la santé, le médecin qui parle à ceux qui nous écoutent, marcher.
Bon, ça
et à l'affût aussi, bien sûr, les yeux ouverts.
Et c'est bon pour votre empreinte carbone, même si de temps en temps, vous prenez l'avion.
Oui, je ne suis pas en dehors du monde, hein. Je vis dans ce monde. C'est Paul Éluard qui disait, s'il est un autre monde, il est dans celui-ci. Hein, donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Il est ici, le monde, mais il faut l'explorer, il faut en profiter, quoi.
Sylvain Tesson.
Moi, j'en ai plusieurs. Il y en a qui sont radicaux, mais enfin, c'est pas la peine de les dire.
Moi aussi, pourquoi
ça,
pas. Vous avez...
Ça ressemble à des provocations. Mais par exemple, j'ai pas de portable. Voilà, j'entendais au début de votre émission que vous nous avez réunis et vous nous avez fait entendre une archive d'explication de l'imposture du discours sur la dématérialisation, qui n'est pas du tout une dématérialisation, puisque quand on s'envoie un coup de fil ou je ne sais quoi, ça consomme de l'énergie et ça utilise des métaux rares. Je crois, c'est comme ça qu'on appelle les choses qu'on met dans les portables. Et voilà, moi, je n'ai pas de téléphone portable, ce qui est une écologie générale, y compris pour moi-même. Je n'ai pas envie de me polluer, moi, avec des notifications, ce mot abominable, ce mot débile. Alors, je me dépollue en empêchant tout algorithme de notifier quoi que ce soit, et je ne trimballe pas dans ma poche de puces parce que j'ai pas envie de me faire gouverner par des puces.
Mais vous avez un ordinateur quand même.
Oui, j'ai un ordinateur et je reçois des mails, mais évidemment, c'est ce que le docteur Jean-Louis Etienne avait raison de préciser qu'il était dans le monde. Le seul geste écologique, enfin, pardonnez-moi de vous le dire, mais à un moment, c'est de débarrasser la planète de sa propre présence. Alors, si possible, comme Mishima, avec un sabre pour ne pas faire d'empreinte carbone avec une arme à feu. Mais on va pas quand même aller jusque-là, parce que ça, c'est de la misanthropie stupide, c'est des propos d'adolescents, ça n'a pas de sens, on va pas pousser à la fin de l'humanité, c'est idiot. C'est un discours qui, finalement, est l'autre face de ce qui est en train de se passer dans la dévastation. On ne peut pas répondre à la dévastation écologique par un propos d'une espèce de profondeur pessimiste et radicale. C'est idiot, c'est l'autre face du même monde et de la même atmosphère. Non, si on va vers la nuance, il faut se déconnecter, rejeter le silicium et ne pas avoir envie que des géants, des GAFA, nous soumettent à la dictature des puces.
Merci à tous les deux. Merci Jean-Louis Etienne. Titre de votre dernier livre, Aux arbres citoyens, édité chez Paulsen. Sylvain Tesson, La panthère des neiges, paru chez Gallimard. Et puis Des cabanes dans les arbres. Ce livre est commis avec Daniel Dufour et paru aux éditions du Pacifique. Et je cite aussi le livre avec des photos magnifiques de Vincent Munier, Tibet, minéral, animal, chez Cobalan. Et aussi Tibet, promesse de l'invisible. Voilà, que de belles références si vous voulez vous en saisir. Et comme toujours, les informations et les compléments sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, réécoute, téléchargement. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et puis sur notre page Facebook. Voilà, on est encore un peu connectés quand même. Dimanche prochain, autre regard croisé entre deux artistes, la réalisatrice et auteure Colline Serrault et le dessinateur de presse Pierre Kroll. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec Être et Savoir et Louise Touré.